Un attroupement foule les premières marches de l'édifice. Les pierres et la hauteur de plafond renvoient aux visiteurs leur bruit de pas. Vous écoutez le reportage réalisé à l'occasion du jour de l'orgue, au temple réformé, rue Anatole France, au Havre. Le jour de l'orgue se déroule chaque deuxième dimanche du mois de mai. Il a pour fonction de promouvoir et de fédérer les manifestations dans toutes les communes où se trouve un orgue. Cette journée est organisée par ceux qui jouent de l'orgue, les organistes, qu'ils soient professionnels, amateurs ou étudiants, et aussi par ceux qui les construisent et les restaurent, les facteurs d'orgue, avec l'aide d'associations de valorisation du patrimoine. Au Havre, c'est le pays d'art et d'histoire, le Havre Seine Métropole, et plus précisément Cécile Lavenue, qui a croisé visite guidée et concert en ce samedi 13 mai. Avec la présence de Daniel Darmoni, Céline Lefebvre et sa fille Sarah, tous les trois organistes, et les mots éclairants de Anne-Charlotte Perret, guide conférencière.
Cécile Lavenue, moi je suis chargée de développement des publics et de la médiation pour le pays d'art et d'histoire, le Havre Seine Métropole, avec cette particularité qui est de valoriser le patrimoine de la commune du Havre. Notre mission, c'est vraiment de valoriser le patrimoine du territoire dans sa diversité, donc autant le patrimoine évidemment du centre reconstruit du Havre, mais aussi des quartiers et des différentes communes qui composent la communauté urbaine. Une diversité qu'on lit dans les paysages, dans les types de patrimoine, qu'ils soient militaires, religieux. Donc l'idée, c'est de pouvoir le valoriser auprès des publics le plus nombreux possible et diversifier lui aussi, donc du plus jeune au plus âgé, et puis bien sûr auprès des habitants, mais aussi des touristes. C'est la première fois que le Pays d'Art et d'Histoire propose une visite dans le cadre des Journées de l'Orgue, qui est une journée nationale. L'idée, c'est de valoriser le patrimoine plutôt instrumental. Et nous avons fait le choix de poursuivre la valorisation à la fois du patrimoine religieux, donc de ce temple protestant, et d'y associer des temps musicaux, à la fois avec l'orgue qui est à l'intérieur du temple et d'un piano, pour avoir comme ça une visite à deux voix, pour différencier l'approche et puis j'ai envie de dire pour varier les plaisirs.
Une découverte d'abord du contexte. Un point de vue de l'extérieur.
La brique va être le matériau principal de la construction. Et l'architecte qui est choisi, c'est Monsieur De Conchy, un architecte parisien. Cet édifice, il a été transformé aussi à nouveau en 1990. C'est l'architecture de l'école, j'ai envie de dire, Perret. La pierre qui a été utilisée, c'est une pierre qui s'appelle la pierre de Saint-Maximin, qui vient de l'Oise, qui est semblable à celle de la cathédrale Notre-Dame. Qui est en général facilement lavable, qui a été choisi à la fois pour sa couleur, pour sa dureté, et aussi qui était assez identique justement à la pierre qui était déjà en place.
Puis étape par étape, on entre progressivement au cœur du sujet.
Quelques indications sur l'intérieur en fait, de cet édifice. On a 13 mètres de haut, et ça représente à peu près 7000 mètres cubes. Donc en 89, on décide de la transformation complète de l'intérieur pour en faire aussi un lieu qui soit plus adapté aux usages modernes.
À l'intérieur, le bâtiment abrite un autre bâtiment, une autre construction. Derrière le meuble verni, on aperçoit celui qui comble les silences de son agitation, celui qui tire les ficelles, devrais-je dire plutôt les registres.
À la base, j'étais papa organise, j'ai commencé le piano donc à l'âge de 9 ans, chez un professeur qui était lui-même organiste titulaire d'une grande église à Pau, un professeur qui était aveugle d'ailleurs, qui a été l'élève de grands organistes comme Jean Langlais. Tout de suite, tout en apprenant le piano chez ce professeur-là, j'ai été sensibilisé donc à la musique d'orgue, puisque ce monsieur donc qui était aveugle et que j'accompagnais quelquefois à l'église pour la restauration de l'orgue de Saint-Jacques justement, m'a fait évidemment apprécier ce son des tuyaux, ce son d'air dans les tuyaux. Ce n'est que bien plus tard où j'ai voulu me remettre à l'orgue plus sérieusement, et là j'ai repris des cours au Conservatoire du Havre en fait jusqu'à la fin d'études et à un prix de perfectionnement. Voilà, auprès de Jean Le Goupil qui est une personnalité locale.
La particularité des orgues, vous le savez sans doute, c'est qu'il y a plusieurs claviers. Il y a un pédalier déjà en général, il y a plusieurs claviers, ce qui permet d'avoir plusieurs plans sonores pour lesquels on peut faire sonner différents sons. La trompette, la flûte, le hautbois, etc. Sont répartis, c'est pour ça qu'on voit énormément de tuyaux, évidemment. Donc, il y a des possibilités qui sont assez, assez considérables.
Les noms des jeux correspondent souvent à des instruments. Mozart considérait l'orgue comme le roi des instruments parce qu'en réalité, l'orgue tente de tous les imiter. Certains jeux de flûte ont donc des noms familiers, mais également surprenants. Montre 8, bourdon à cheminée 8, trompette, corps de nuit, nazar, cymbale, rossignol. L'orgue du temple réformé a été construit par la maison Göttchenritter en 1954 et restauré par le facteur J.M. Citiero en 1980. Dans la facture d'orgue, on parle de tuyaux, de jeux, de registres, de claviers et même de pédaliers. Le pédalier est le clavier qui met à disposition pour les pieds. C'est celui qui va activer les tuyaux les plus graves, les basses. Les tuyaux peuvent être en bois ou dans un mélange de zinc et d'étain. Au plus ils sont petits, au plus ils sont aigus. Au plus ils sont grands, au plus le son est grave. Un jeu est une rangée de tuyaux correspondant à la même famille de tuyaux. Les registres sont des leviers en bois que l'organiste tire pour activer l'arrivée d'air sous un jeu afin que le jeu puisse être activé sur le clavier.
L'orgue n'est pas uniquement utilisé dans les églises d'ailleurs, parce que il y a une particularité en France en fait, c'est qu'il y a seulement 3 salles de concert où il y a un grand orgue. Il y a la Philharmonie à Paris, il y a la salle de concert de Lyon dont j'ai oublié le nom, et puis il y a une troisième salle de concert que j'oublie également. Mais en fait, tout ça pour dire que l'orgue en fait en France c'est souvent synonyme de installé dans une église ou un temple ou une synagogue peut-être, encore que c'est plus rare. Mais en fait, quand on va à l'étranger, notamment aux États-Unis, en fait, il y a des grandes orgues dans beaucoup de salles de concert. En fait, des œuvres écrites pour orgue ne sont pas forcément religieuses. Et que l'instrument permettant beaucoup de choses, notamment quand il y a de multiples claviers, de multiples jeux, on peut très bien transcrire pour orgue des œuvres qui sont à la base symphoniques. Hein. C'est ce que on a fait tout à l'heure. Alors Céline donc a joué une œuvre qui était écrite pour piano, une œuvre de Tchaïkovski. Et puis moi j'ai joué une transcription, plus ou moins réussie évidemment, ça dépend de l'arrangeur, de la transcription, de Edouard Elgard sur une variation donc de variation Enigma qui s'appelle Nimrod.
L'image qu'on se fait de l'orgue est poussiéreuse. Sa musique que l'on attribue uniquement à la religion est plus riche que cela. Entre transcription, mais aussi tradition, nous entendons les prouesses que l'instrument respirant à plein poumon est capable de faire.
On va vous jouer un choral qui a été composé en 1521 par Martin Luther, le grand leader de la Réforme. Daniel va d'abord vous le jouer à l'orgue et je vous le jouerai au piano. En fait, ce qui est intéressant avec ce choral, c'est qu'il a vraiment traversé les siècles. Donc, créé en 1521, repris par Bach ensuite dans 2 chorales avec des arrangements. Il a également été une source pour la cantate BWV 80 de Bach. Puis ensuite, Mendelssohn l'a utilisé comme thème pour le quatrième mouvement de sa symphonie numéro 5, et ça ne s'arrête pas là, puisque Meyerbeer l'a employé dans son grand opéra Les Huguenots. Puis Richard Wagner l'a utilisé comme motif, c'est-à-dire pas forcément développé, dans sa marche impériale, etc.
Le jour de l'orgue, c'est un moment de partage et de transmission sur ce que c'est que cet instrument connoté qu'est l'orgue et sa musique. Car l'orgue...
C'est un petit peu comme la vie du Havre, finalement. Il faut toujours aller voir à l'intérieur pour avoir une vision vraiment complète des choses. Voilà, pour ne pas avoir quelque chose de parcellaire. Et toujours être curieux et franchir les portes, justement.
Les tuyaux métalliques disposés en pyramide soufflante trônent au-dessus de nos têtes. Nous avons le loisir, pour une fois, de ne pas uniquement tendre l'oreille, mais de tordre le cou à l'autel, de faire un pied de nez à la musique, pour s'attarder sur la vie fantomatique et flottante qui semble jaillir de cet instrument impressionnant.
Thank you.